Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant le pouvoir de la croix. Nous arrivons à l'étude numéro 2 et notre titre sera « La préparation ». Chers amis, une fois que nous connaissons non seulement le plan et le but éternel de Dieu à notre égard, mais aussi sa méthode pour nous y préparer et nous y amener, nous nous reposerons en lui en toute confiance. Or, il se fait que l'élément le plus propice à notre croissance est l'adversité. Sans besoin personnel, nous n'irions pas loin dans notre vie chrétienne. Notre Père suscite et permet des difficultés dans notre vie pour nous détourner de tout ce qui est en dehors de Jésus-Christ, afin qu'il soit notre seul centre d'intérêt. Donc, non pas moi, est-il dit dans Galates chapitre 2, verset 20, non pas moi, mais Jésus-Christ. Autant pour notre croissance que pour notre service, il est absolument nécessaire que nous comprenions ce principe. L'âme n'absorbe jamais la vérité en tant que force active, mais au fur et à mesure qu'elle en a besoin. Quant à notre croissance, notre dénuement, tout cela nous pousse à demander au Seigneur Jésus ce dont nous avons besoin, tout en nous l'appropriant par la foi. Nous devons donc approprier toutes ces choses uniquement par la foi. Et c'est possible. Voyez-vous, en ce qui concerne notre service, notre témoignage également, et l'aide que nous apportons à d'autres, il nous faut rester alerte à discerner vraiment le cœur affamé si nous voulons qu'il y ait du fruit durable. La véritable valeur d'une chose n'est appréciée que lorsque nous en manquons. Ich en Darby, il a dit encore beaucoup plus clairement, il a dit que la sagesse et la philosophie n'ont jamais fait découvrir Dieu. Il se fait connaître à nous quand le besoin nous presse. C'est là que nous pouvons découvrir Dieu. Et c'est donc par la nécessité que nous trouvons Dieu. Je doute que nous ayons jamais vraiment appris quoi que ce soit sinon de cette manière-là. Vu dans cette lumière, les contretemps qui nous harcèlent sont inestimables. Nous devons nous rendre à l'évidence que ce n'est que la faim spirituelle qui nous pousse à nous nourrir du Seigneur Jésus-Christ. Notre expérience personnelle nous fait penser que Saint Matthieu, chapitre 5, verset 6, devrait avoir une grande signification pour chacun de nous. Heureux donc ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Bien trop souvent, on exhorte des croyants à croire et à croître. Et bien souvent, j'ai dit, malheureusement sous pression, avant qu'ils soient vraiment conscients de leurs besoins, et même avant qu'ils ressentent une véritable faim spirituelle. Il est donc assez triste de constater que la plupart du temps, quand une personne est affamée, on lui offre si peu de nourriture spirituelle. Une des raisons principales qui explique pourquoi tellement d'efforts d'évangélisation et de témoignages restent souvent sans ou presque sans résultat. C'est tout simplement que la victime qu'on aimerait sauver est soumise à, parfois, à un bombardement de vérité avant d'avoir été sensibilisée au fait qu'elle est tout à fait perdue, qu'elle puisse comprendre qu'elle est vraiment perdue dans son péché. Même s'il n'y a que très peu de péchés, on est perdu. Même pour un seul péché, on est perdu. Les efforts qui seront déployés seront, on peut dire, nuls. À moins, évidemment, qu'une écrasante conviction de péché va pousser l'âme consciente de sa perdition à pouvoir saisir le salut par une foi personnelle. C'est personnel, ce qui seul comblera tous ses besoins en Jésus-Christ, qui est maintenant devenu son sauveur et libérateur. Watchman Nee, il met les choses bien en place quand il dit « Dieu ne nous a pas mis ici tout d'abord pour prêcher ou pour travailler pour lui. La raison première pour laquelle nous sommes là, cela consiste à susciter une faim de Dieu en ceux qui nous entourent. Aucune œuvre valable ne peut donc commencer dans la vie d'un homme ou d'une femme avant qu'il ou qu'elle n'éprouve le sens de ses besoins spirituels. Nous devons donc prier pour les personnes. Toujours prier d'abord pour les personnes avant de pouvoir agir. Nous ne pouvons pas injecter l'appétit spirituel par notre force. Nous ne pouvons pas obliger les gens à avoir faim. La faim doit être suscitée et elle ne peut l'être que par ceux qui sont imprégnés de Dieu. Voyez-vous, la démolition précède la reconstruction. Il est dit dans Osée chapitre 6, verset 1, « Venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. » Cela vaut aussi bien pour la croissance que pour le service. C'est une grande consolation de constater que ce sont invariablement ceux qui ont été plongés dans les profondeurs de l'échec que Dieu appelle à être berger. Je répète, parce que c'est important. C'est une grande consolation de constater que ce sont invariablement ceux qui ont été plongés dans les profondeurs de l'échec que Dieu appelle à être berger. Ce n'est pas premièrement parce qu'ils sont doués ou hautement compétents qu'ils ont fait les hautes écoles, la Sorbonne, l'ENA, etc., ou qu'ils ont dû savoir vivre, que Dieu les appelle parce qu'ils ont tout cela. S'ils n'ont pas fait l'expérience de leur propre insuffisance et pauvreté, eh bien, ils ne sont pas habilités à prendre la charge d'un ministère spirituel. Il leur faut donc avoir découvert à quel point ils sont faibles eux-mêmes pour être capables d'avoir de la patience avec les faiblesses des autres. Un homme ou une femme de cette trempe, il ou elle sait, pour en avoir fait l'expérience, jusqu'où va la sollicitude pleine d'amour du grand berger, dont il connaît, lui, la capacité de guérir celui ou celle qui, en toute humilité, en est arrivé à placer sa confiance en lui seul. Il ne désespérera donc pas facilement des autres, mais il regardera au-delà de la nature pécheresse de l'obstination, de la stupidité parfois, vers la puissance de l'amour constant de Dieu. Ce n'est pas après avoir entendu l'apôtre Pierre affirmer avec assurance qu'il resterait à jamais loyal au Seigneur que Jésus lui a dit « Paix mes agneaux, paix mes brebis ». Il lui a donné cette charge une fois que Pierre avait lamentablement manqué à son vœu de fidélité et amèrement pleuré dans les rues de Jérusalem. Pour que notre vie spirituelle soit authentique, eh bien, Dieu prépare en profondeur, à fond, et cela prend du temps. Il veut que notre vie soit centrée uniquement en Jésus-Christ, que notre marche soit conduite par le Saint-Esprit et que notre service glorifie vraiment Dieu. Tôt ou tard, le Saint-Esprit nous rend conscients de notre problème de base en tant que croyants, l'infinie différence entre notre moi et le Christ. Il y a donc d'autres ouvriers que ceux qui recherchent le pardon ainsi que la justification. Il y a ceux qui recherchent la sanctification ainsi que la sainteté personnelle, en plus la délivrance de la puissance du vieil Adam. Les promesses, ce sont Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Ces promesses sont valables pour les uns comme pour les autres. Il est donc parfaitement possible qu'un homme, une femme, qui a trouvé le repos en Jésus-Christ par la justification, entre ensuite dans une phase où il ressent un profond besoin de repos et de sanctification. Nous ne pensons pas du tout nous tromper beaucoup en disant que c'est là l'expérience de pratiquement tout croyant. Voyez-vous, une grande partie de la préparation que Dieu opère en nous, cela consiste à nous faire entrer dans ce combat, car il faut que nous nous voyions tels que nous sommes vraiment, vraiment, afin de chercher à être libérés du pouvoir et de l'influence maléfique de notre propre moi. Car il n'y a aucun espoir que nous continuions à demeurer en Jésus-Christ tant que nous sommes dominés par notre moi, vu que ce qui est bon n'habite pas en moi, nous dit Saint Paul dans Romains chapitre 7, verset 18. Même dans notre petite enfance, nous ne sommes pas capables de demeurer continuellement dans sa présence, indépendamment de notre entourage et de nos occupations. Ce n'est pas quand nous le servons d'un zèle intermittent que notre âme grandit et prospère. Ce n'est pas non plus quand nous sommes indifférents que nous sommes abreuvés de la présence du Seigneur. Ce n'est qu'une fois que nous avons été subjugués, épurés et châtillés. Oui, une fois que l'amour du moi et du monde a totalement disparu. C'est là que nous apprenons à rester continuellement en relation avec lui, avec Jésus. Et ceci en tout temps, et en tout lieu. Amen. Mais ils ont de la valeur. Oui, ils ont de la valeur, nos combats pour nous libérer de la manière de vivre du vieil Adam. Ils ont de la valeur, nos efforts stériles pour vivre la nouvelle vie en Jésus-Christ. Car ces combats, ces efforts nous font comprendre à quel point ils sont futiles. Notre Père utilise nos échecs cuisants sur le plan personnel dans toutes les phases de notre vie chrétienne pour nous préparer à la réussite qu'il veut opérer en nous. Par ce procédé apparemment négatif, Dieu veut nous faire entrer dans sa promesse catégorique telle qu'elle se trouve formulée en Philippiens chapitre 1 verset 6 où il est dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. » Alléluia. Cette œuvre bonne en nous, elle commence par l'échec. Et oui, souvent, échec qui touche à nos points les plus forts, pour ensuite déboucher dans la réussite que Dieu seul aura produite en nous. Car c'est Dieu, lui seul, qui opère en nous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant, est-il dit en Philippiens chapitre 2, verset 13. Donc cela ne fait pas de doute que nous avons tous commencé par pure grâce, et oui. Et c'est ainsi que nous devons continuer et arriver au but. C'est uniquement par sa grâce. C'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes, nous est-il dit dans Galates, chapitre 5, verset 1. Voyez-vous, l'absence d'effort n'est pas synonyme d'absence de volonté. Nous faisons usage de notre volonté pour croire et pour recevoir, mais non pas pour essayer d'accomplir ce que seul Dieu peut et sait faire. Pour recevoir la victoire de ses mains, des mains de Dieu, il faut donc croire sa sainte parole qui dit qu'il nous libère en ce moment même et uniquement par sa grâce de la domination du péché. Croire en Jésus-Christ de cette manière-là, c'est de reconnaître qu'il fait pour nous ce que nous ne saurions faire nous-mêmes. Nous avons bien appris ce principe au temps de notre naissance spirituelle, mais il semble que la plupart d'entre nous aient à le réapprendre en partant à zéro, si nous voulons faire l'expérience de la croissance spirituelle et du service fertile. N'ayez donc pas de crainte, vous qui m'écoutez maintenant, ne perdez tout simplement jamais de vue que Dieu poursuit son but en Jésus-Christ à votre égard et qu'il vous guidera fidèlement, pas à pas, à travers la préparation indispensable. C'est lui, oui, c'est lui qui le fera. Une fois que vous êtes sûr du but, vous pouvez être tout aussi affirmatif en ce qui concerne la préparation. Vous n'avez que à vous rappeler que Romains chapitre 8, versets 28 et 29 vont ensemble. Et puis, de le remercier pour Philippiens chapitre 1, verset 6, où il est dit « Le Seigneur est glorifié par un peuple dont toute la pensée tend vers le but ce but étant Dieu lui-même, quel que soit le coût, quel que soit le chemin. Et cette attitude fait dire, par n'importe quel chemin, même si la route est très difficile, flanquée d'ennemis, pourtant le désir passionné d'arriver au but permettra à cet homme d'y cheminer résolument. Cependant, l'homme qui n'aspire pas profondément à connaître son Seigneur se laissera facilement détourner. L'homme Jésus nous a déjà précédés sur ce chemin-là et à chaque tournant, il a remporté la victoire pour nous. Nous n'avons donc pas à faire de la varappe. Nous sommes destinés à marcher dans le cortège triomphal du Christ Jésus. Chaque ennemi a été affronté. Chaque adversaire a été vaincu. Il n'existe rien, absolument rien, qui n'ait pas déjà été virtuellement soumis au Christ Jésus. Et il ne reste absolument rien dans l'univers qui puisse vaincre le moindre des enfants de Dieu ayant pris la main du Seigneur en lui disant « Oh Seigneur, conduis-moi à travers tous les dangers au lieu où toi tu voudras par la vertu de ton sang précieux qui est le signe de la victoire. Quelle gloire pour le Seigneur lorsque au jour de l'adversité, au jour de l'effroi, quand tout autour de lui s'ébranle et tremble, son enfant va avancer dans la sérénité et dans la confiance totale. Chers amis, nous continuons à nous préoccuper des faits de base, vu que la vie ne peut être meilleure que sa racine qui est sa source. La jeunesse, manquant de maturité, a la tendance d'agir d'abord et de réfléchir ensuite, ou parfois pas du tout. Prendre le temps d'évaluer les faits, cela est un signe de maturité. Notre maître est patient. Il nous donne le temps qu'il nous faut pour apprendre les faits qui ont trait à l'éternité afin de nous amener à la maturité spirituelle. Notre Seigneur Jésus avait l'habitude d'illustrer les vérités spirituelles les plus profondes par des données de la vie courante. Il nous fait d'abord connaître le vrai visage de notre vie naturelle, vie que nous tenons de Adam, et avant d'ouvrir notre compréhension à la nouvelle vie spirituelle que Jésus-Christ nous confère. Il nous faut donc comprendre le principe vital d'écouter et qui découle de la source cérémonielle. Il est dit selon son image. Notez la Genèse, chapitre 5, verset 3. Donc, tout croyant doit d'abord apprendre que tout ce qu'il a lui vient de Adam, car il descend de lui et il lui ressemble forcément. Il lui ressemble par la désobéissance d'un seul homme. Par cette désobéissance, beaucoup ont été rendus pécheurs, sinon tous. Romains chapitre 5, verset 19. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire n'habite pas dans ma chair. Romains chapitre 7, verset 18. Donc, une fois que Jésus-Christ nous a fait saisir à travers nos combats et à travers nos multiples échecs, que à cause de notre descendance, notre nature est foncièrement charnelle, car nous sommes prêts à recevoir son enseignement concernant notre source spirituelle, et cela par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes, nous est-il dit dans Romains, chapitre 5, verset 19. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez donc tout pleinement en lui. Colossiens chapitre 2, verset 9 et 10. Voyez-vous, il y a deux aspects principaux à ce que je nommerai le principe de la source. Tout d'abord, le Seigneur Jésus, c'est lui la source de notre vie chrétienne. Nous naissons dans sa vie, en lui, Dieu nous a tout donné. En Jésus-Christ, en effet, Dieu le Père nous a tout donné. C'est une vérité à saisir par la foi. Eh oui, et c'est vrai pour chacun de nous. Si quelqu'un est en Christ, est-il dit, il est une nouvelle créature, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ensuite, ayant saisi ce fait par la foi, nous en faisons l'expérience pratique dans la réalité de tous les jours. Peu à peu, nous nous approcherions ce qui nous appartient en fait déjà. Je répète, peu à peu, nous nous approprions, nous saisissons ce qui nous appartient en fait déjà. C'est cela qu'il fallait dire. Ce qui importe donc, c'est de savoir que tout nous appartient et d'en être sûr que cela nous appartient. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ et cela déjà maintenant. Cette réalité nous rend capables de nous soumettre à la transformation de notre caractère que Dieu patiemment opère en nous, afin que la vie de Jésus-Christ puisse se manifester par nous. Voyez-vous, le progrès ne veut rien dire, ne rien dire d'autre que de avancer dans la connaissance spirituelle et ce que nous possédons en fait dès le début de notre vie chrétienne. Je comparerai la grâce, écoutez bien la suite, je comparerai la grâce à une échelle de 7 échelons. Le premier, c'est de croître et de croire que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Le second, c'est de se savoir justifié par son œuvre accomplie. Le troisième, c'est d'apprendre à le connaître. Le quatrième, c'est de se savoir associé avec le Christ au ciel et avec sa puissance sur la terre. Le cinquième échelon, c'est d'entrevoir le mystère des biens supérieurs dont nous jouissons tous en tant que membres de son corps. Le sixième, c'est la conviction d'être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et le septième échelon, enfin, c'est d'être plongé dans l'émerveillement de la louange par la connaissance que l'on a du Seigneur lui-même. Ça vaudrait la peine que je répète cela, car c'est très important. Je comparerai donc la grâce à une échelle à 7 échelons. Le premier, c'est de croire que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Le second, c'est de se savoir justifié par son œuvre accomplie. Le troisième, c'est d'apprendre à le connaître. Et le quatrième, c'est de se savoir associé avec le Christ au ciel et avec sa puissance sur la terre. Le cinquième échelon, c'est d'entrevoir le mystère des biens supérieurs dont nous jouissons tout en tant que membres de son corps. Le sixième, c'est la conviction d'être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et le septième échelon, c'est enfin, c'est d'être plongé dans l'émerveillement et la louange par la connaissance que l'on a du Seigneur lui-même. Je dis par la connaissance que l'on a du Seigneur lui-même. Donc, chers amis, vu que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, nous n'avons pas à essayer d'ajouter quoi que ce soit à son œuvre parfaitement accomplie. Il s'agit donc maintenant de marcher dans cette foi-là et de recevoir et de nous approprier ce qui découle de l'intarissable source intérieure. Voyez-vous, la résurrection de Jésus-Christ, elle était aussi notre résurrection à une vie de sainteté, tout comme la chute d'Adam était aussi notre chute dans la mort spirituelle. Ni l'origine, ni la formation de notre nouvelle nature sanctifiée ne peut nous être attribuée, pas plus que notre corruption originelle. En nous unissant au Christ, eh bien nous participons à sa vie spirituelle, vie dont il a pris possession à sa résurrection, ce qui nous rend capables d'en produire les fruits. Il y a là donc une similitude avec l'union du mariage, selon Romains chapitre 7, verset 4, où il est dit « Vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi pour appartenir, pour être mariés à un autre, c'est-à-dire à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Nous n'avons donc pas à produire, mais nous avons à recevoir notre vie en Jésus-Christ. Cela nécessite donc une recherche assidue des faits connus dans la Sainte Bible, une foi explicite en Dieu et dans le but qu'il poursuit en nous par Jésus-Christ, ainsi qu'une confiance totale en lui, alors qu'il nous fait passer par le cheminement que cela nécessite. Voyez-vous, aucun croyant ne s'est jamais trouvé d'un seul coup dans un état de maturité spirituelle, bien que en Jésus-Christ, il ait tout ce qu'il lui faut. Donc, la croissance spirituelle, elle dépend d'un cœur qui est rempli d'une véritable faim de mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que d'une détermination à s'approprier les trésors de sa plénitude, ce qui ne va pas sans méditation et sans réflexion. Nous n'aurions jamais une véritable connaissance de nos possessions spirituelles si nous nous bornons à une compréhension superficielle de la Sainte Parole. Comment nous attendrions-nous à jamais à avoir une communion intime avec le Seigneur si nous ne le connaissons que un petit peu? Voyez-vous, ce qu'il nous faut, c'est une méditation au cours de laquelle Dieu puisse à tel point concentrer son esprit et sa vie dans l'individu régénéré qu'il devienne le principe de base de la personne. Pour que l'essence divine puisse donc devenir une partie intégrante d'un homme jusqu'à faire de lui un homme de Dieu, eh bien l'essence divine en tant que vie personnelle doit donc d'abord s'incarner dans un homme qui devienne le centre de l'humanité tout entière. Car ce nouveau type de vie, oui, on peut bien le dire, qui n'a jamais existé avant, ne pourra se reproduire en d'autres spécimens semblables que à partir d'une unité qui contienne parfaitement toutes les caractéristiques de ce nouveau principe vital. Ainsi, pour ce qui est divin, puisse trouver son expression personnelle parmi les hommes, il faut donc tout d'abord que naisse un homme qui incarne personnellement le principe de la vie divine. Le christianisme concentre donc la plénitude totale de la révélation divine en la seule personnalité humaine de Jésus-Christ. C'est donc par sa méditation que le principe de la vie divine transmis aux hommes se déploie dans toute sa plénitude. Quand Jésus-Christ entre dans la vie d'un homme, eh bien la vie divine se manifeste tangiblement en lui, non pas en tant que principe universel du cosmos, mais sur le plan personnel. Cet homme, et j'ajoute cette femme, vous l'avez compris, n'est pas seulement créé par Dieu comme tous les hommes et toutes les femmes, mais il est, elle est maintenant aussi engendré par Dieu. Devant le Dieu, reposant en Dieu, vécu pour Dieu, sa vie personnelle se perfectionne donc dans un développement qui va bien au-delà d'une communion morale ou théocratique, pour enfin devenir une communion de nature. Une semence contient déjà la totalité de la vie qu'elle reproduira. Rien ne peut y être ajouté. Vous avez été régénéré, non pas par une semence corruptible, est-il dit, mais par une semence incorruptible. Notez 1er épître de Pierre, chapitre 1, verset 23. Ensuite, tu n'ensemenceras pas ton champ de deux espèces de semences. Lévitique chapitre 19, verset 19. Cela doit donc être non pas moi, mais ça doit être Jésus-Christ. Galates chapitre 2, verset 20. Donc une fois que la semence a été implantée, ce n'est plus qu'une question de croissance et de maturation. Ainsi, seulement y aura-t-il du fruit qui peut demeurer. Le développement de la vie divine dans le chrétien ressemble donc à la croissance naturelle dans le règne végétal. Point n'est donc besoin de nous efforcer continuellement. Il suffit tout simplement de nous soumettre aux conditions favorables qui favorisent la croissance. Seuls ceux qui se sont efforcés de croître spirituellement par leurs propres moyens, et qui ont échoué en cours de route, peuvent savoir assez pour comprendre que leur développement ne peut s'effectuer que par la puissance de Dieu. Donc, toutes les puissances divines qui ont déjà œuvré à l'accomplissement de la première partie du plan éternel, à savoir la révolution de la similitude parfaite entre Dieu le Père et l'homme Jésus-Christ, sont également à l'œuvre pour accomplir aussi la seconde partie, cette seconde partie qui consiste à reproduire cette ressemblance dans chaque enfant de Dieu. Je prétends qu'une racine qui est plantée dans le sol le plus riche, bénéficiant du meilleur des climats et de tous les bienfaits du soleil, ainsi que de l'air et de la pluie, aura moins de chances d'arriver à la perfection de son épanouissement que n'importe quel homme ou femme dont l'aspiration principale est de recevoir de la part de Dieu tout ce qu'il est infiniment désireux de lui donner. Dieu, c'est la source de tout ce qui est bon, et c'est Dieu qui communiquera en effet sa nature divine à l'âme qui le désire ardemment, avec plus de certitude que le soleil n'atteindra le bourgeon qui pousse à se rencontre. Oui, chers amis, non seulement notre vie est-elle parfaite uniquement en Jésus-Christ, mais il en va de même pour la victoire indispensable dans tous les domaines de la vie. Si vous vous battez pour obtenir la victoire, vous l'avez perdue avant de commencer. Supposons, chers amis, que l'ennemi vous attaque chez vous ou au travail. Alors la difficulté est celle que vous n'avez aucun moyen de la surmonter. Pourtant, oui, votre réaction instinctive sera de vous préparer à un dur combat et puis à demander à Dieu de vous donner la victoire. Si vous procédez ainsi, eh bien la défaite vous guette, puisque vous avez abandonné le terrain qui vous appartient en Jésus-Christ, le terrain que vous avez laissé à l'ennemi par votre attitude. Alors que faire lors d'une de ces attaques? Que devons-nous faire? Eh bien, levez le regard et louez tout simplement le Seigneur Jésus. Dites-lui: Seigneur, je dois faire face à une situation qui me dépasse totalement. Ton ennemi, le diable, a tout agencé pour me faire tomber. Mais je te loue de ce que ta victoire englobe aussi ma difficulté présente. Merci de m'avoir déjà donné une pleine victoire en cette circonstance. Je crois que ça vaut la peine que je vous répète cela. Écoutez bien. Pourtant, votre réaction instinctive sera de vous préparer à un dur combat et puis à demander à Dieu de vous donner la victoire. Si vous procédez ainsi, la défaite va vous guetter, puisque vous avez abandonné le terrain qui vous appartient, rappelez-vous, qui vous appartient en Jésus-Christ, terrain que vous avez laissé à l'ennemi, tout simplement par votre attitude. Alors que faire lors d'une de ces attaques? Eh bien, levez le regard et louez tout simplement le Seigneur Jésus-Christ et dites-lui, ô Seigneur, je dois faire face aujourd'hui à une situation qui me dépasse totalement. Car ton ennemi, le diable, a tout agencé pour me faire tomber. Mais je te loue et je continuerai de te louer de ce que ta victoire englobe aussi ma difficulté présente. Merci donc de m'avoir déjà donné une pleine victoire en cette circonstance. Chers amis, n'ayez pas de précipitation. Ce n'est pas la méthode du Seigneur. Le fameux artiste japonais Hokusai, il disait, depuis l'âge de 10 ans, j'avais la manie de dessiner uniquement le contour des objets. Or, à 50 ans, j'avais publié un très grand nombre de dessins, mais rien de ce que j'ai produit avant l'âge de 70 ans ne vaut vraiment la peine d'être pris en considération. Et quand il est mort à l'âge de 89 ans, il a déclaré qu'il ne lui aurait fallu que encore 5 années de plus pour devenir un très grand artiste. Ça donne à réfléchir, non? Pour moi aussi, qui a passé 90 ans, car beaucoup de choses que j'ai fait avant, c'est vraiment rien par rapport à ce que le Saint-Esprit m'aide maintenant, à mon grand âge, à faire. Chers amis, j'aimerais vous communiquer encore quelque chose pour votre, on peut dire, pour votre édification personnelle, mais aussi, oui, aussi, pour votre encouragement. Écoutez bien. Celui qui aime Jésus-Christ est en vérité un homme, une femme, vraiment intérieur et dégagé de toute affection déréglée, et il et elle peut librement s'approcher de Dieu et se levant en esprit au-dessus de soi-même, se reposer en lui par une jouissance anticipée. Celui ou celle qui estime les choses suivant ce qu'elles sont et non d'après les discours et d'après les opinions des hommes est vraiment sage. C'est Dieu qui l'instruit beaucoup plus que les hommes. Un homme, une femme intérieure, se recueille bien vite parce qu'il ou elle ne se répand jamais tout entier au dehors. Les travaux extérieurs, les occupations qui sont nécessaires en certains temps, ne le trouble point, mais il se prête aux choses selon qu'elles arrivent. Si vous étiez ce que vous devez être, c'est-à-dire entièrement libre et détaché, tout contribuerait à votre bien et à votre avancement. Mais beaucoup de choses vous déplaisent et souvent vous troublent parce que vous n'êtes pas encore tout à fait mort à vous-même et vous êtes séparé des choses de la terre. C'est ce que vous devez être, séparé des choses de la terre. Rien n'embarrasse et ne souille tellement le cœur de l'homme que l'amour impur des créatures. Si vous rejetez les consolations du dehors, eh bien vous pourrez contempler les choses du ciel et vous pourrez goûter souvent les joies intérieures. Amen. Et chers amis, maintenant, prions ensemble. Seigneur, nous te remercions car ta grâce a surabondé afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce a régné par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit, que chacun de nous, au lieu de considérer nos propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Tu dis, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, ayons revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayons pour casque l'espérance du salut. Nous qui étions autrefois étrangers et ennemis par nos pensées et par nos mauvaises œuvres, tu nous as maintenant réconciliés par ta mort pour nous faire paraître devant toi saints, irrépréhensibles et sans reproche, si du moins nous demeurions fondés et inébranlables dans la foi, sans nous détourner de l'espérance de l'Évangile. Oui, Seigneur, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu Très-Haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Tu nous as fait connaître ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de nous, c'est que nous pratiquions la justice et que nous aimions la miséricorde et que nous marchions humblement avec notre Dieu. Amen. Amen. Et chers amis, j'aimerais encore vous transmettre quelques chants d'un très lointain passé. C'est vrai, entre 1954 et 56. Mais évidemment, la qualité du son n'est plus la même. Vous le comprendrez très bien. Mais rappelez encore une chose, rappelez-vous, que Dieu vous aime. Et étant donné que Dieu vous aime, il est de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et maintenant, je vous enlace et je vous embrasse et je vous dis oui, je vous aime tous. Et soyez donc bénis. Et maintenant, essayons si ces chants d'un lointain passé fonctionnent encore.
Ô nom qui surpasse tout nom qu'on puisse exalter, que jamais je ne le lâche, nom béni de te chanter. Ne le crains plus, mon frère, écoute, et sur la route, chante, bonjour Jésus. Suis ses pas, et sur la route, chante ce beau nom. Sur ceux qui pleurent, c'est lui l'homme méprisé, qui mourut pour ceux qui meurent, c'est lui l'homme au cœur brisé. Oh, ne viens plus, mon
Bonjour. divine.